Alors nous allons commencer avec dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25. Et nous allons voir deux catégories de serviteurs. Deux catégories de serviteurs. Bien sûr, dans ce cas, une catégorie va être celle qui est un modèle pour nous. Et l'autre catégorie, ben, c'est celle à éviter. Hein. Donc dans Matthieu 25, nous avons une parabole du Seigneur. Et c'était un moyen que Jésus utilisait pour nous transmettre ses pensées, et surtout sur la pensée du Père céleste. Et donc, parce que trop souvent, en tant que chrétiens, nous sommes tentés de prendre les concepts du monde et de les appliquer aux choses spirituelles. Et malheureusement, quand on le fait, on se plante, hein, parce qu'on ne peut pas prendre les principes et les valeurs du monde et puis les appliquer aux choses spirituelles. C'est plutôt « Dieu, dis-moi comment tu penses, et c'est moi qui vais réformer ma pensée, je vais être transformé ». Hein, il parle quand même du renouvellement de l'intelligence. Hein. S'il en parle, c'est qu'on en a besoin. Et donc, là, quand il voit deux catégories de serviteurs, eh bien, ce ne sont pas ceux que les hommes admirent, c'est ce que Dieu recherche. Qu'est-ce qu'il veut dans un serviteur? Et malheureusement, même dans nos églises évangéliques, avec toutes les bonnes intentions que nous avons, souvent, eh bien, ça fonctionne un peu à la manière du monde, hein, les valeurs du monde, les priorités du monde. Mais là, nous allons essayer de voir quelles sont les pensées que Dieu a et comment lui évalue un serviteur, ce qu'il cherche dans un serviteur. Alors, Matthieu chapitre 25, et je vais lire à partir du verset 14. 14 jusqu'à 30, hein, verse 14 to 30. Il en sera... Quand il dit « il en sera », c'est que voilà une valeur. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. » Un talent, ce n'est pas le talent qu'on emploie aujourd'hui, c'est une mesure, hein, c'est un poids. Ça représentait 3000 cycles d'argent. C'est une grosse somme parce que ça fait à peu près 49 kilos d'argent. Donc un talent, c'était une grosse somme. Hein, alors il dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. On va revenir là-dessus, mais je souligne, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Finalement, il dit exactement la même chose, hein, même si du point de vue quantité, il y en a moins. Verset 24, celui qui avait reçu 1 talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un maître dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as point vanné. J'ai eu peur, Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai point semé et que j'amasse où je n'ai point vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et à celui et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans cette parabole, eh bien, nous allons un peu voir la manière dont Dieu conçoit le service, ce qu'il recherche. Je suppose et j'espère que le désir de chacun de nous, c'est de servir le mieux possible. C'est de vouloir plaire à Dieu. Ce n'est pas me plaire, je vais faire quelque chose pour Dieu, puis je vais lui dire de me dire merci. Non, non, qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu? Qu'est-ce qui te plaît? Et cette parabole va nous apporter des idées claires sur ce que Dieu recherche. Et donc, nous avons deux catégories ici. À l'un, il dit « bon et fidèle serviteur ». À l'autre, il dit « méchant et paresseux ». C'est vraiment, c'est opposé. « Bon et fidèle serviteur », le maître qui dit ça à un esclave. Et puis à l'autre, il dit « méchant et paresseux ». Et quand il s'agit de Dieu, c'est pas seulement bon, il est emporté, il exagère, il est un peu dur. Non, non. C'est que c'est vraiment ce qu'il pense. C'est sa manière de voir la chose. C'est son discernement qui lui permet de dire cela. Et donc c'est important pour nous de voir et puis à nous de savoir comment être. Alors nous allons commencer par le serviteur fidèle. D'abord, comme j'ai souligné tout à l'heure, le maître cherche la fidélité et il tient compte de la capacité. Ça, c'est très important pour nous de comprendre. Il cherche la fidélité chez chacun d'entre nous, mais ce qu'il demande, c'est selon nos capacités. Il ne me demande pas d'être ce que je ne suis pas. Il ne me demande pas de faire ce que je ne peux pas faire ou ce dont il ne m'a pas rendu capable de faire. Alors ici, il nous dit, il donna à chacun en fonction de ses capacités. À celui qui l'a donné 5, il savait pourquoi il a donné 5. C'est pas parce que sa tête lui plaisait, c'est pas parce qu'il portait un joli nom, c'est pas parce qu'il était d'une certaine origine, c'est pas parce qu'il avait fait des études. Certainement, c'est parce qu'il a dit que c'est en fonction de ses capacités. Hein, nous avons des capacités différentes, nous sommes très différents les uns des autres, et Dieu sait pourquoi, et c'est ainsi qu'il l'a voulu. Alors, il donne à l'un 5 parce que il peut utiliser et faire valoir 5. Il donne à un autre 2 parce que celui-là peut faire valoir 2. S'il avait reçu 5, certainement qu'il aurait été frustré et dépassé, et accablé. Donc, Dieu demande à chacun selon ses capacités. Et les règles que Dieu emploie, c'est qu'il commence et il teste notre fidélité avec le peu de choses. Il me demande une petite chose qui est selon mes capacités et puis il voit ma performance. Alors, si j'ai été fidèle, bien il dira, tu as été fidèle dans peu de choses, je pourrais te confier de plus grandes choses. C'est dans Philippiens chapitre 2, verset 13, il nous dit « Ce que Dieu désire, c'est que l'on soit fidèle. » Après tout, c'est ce que Dieu est, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. On s'appuie énormément sur le fait que Dieu est fidèle. Presque plus que le fait que Dieu soit grand. Dieu est fidèle, parce que c'est ça qui me donne l'assurance tous les jours. Il est fidèle, qu'il est grand, mais sa grandeur n'intervient pas tous les jours dans tous les événements de ma vie. C'est lui qui décide quand sa puissance intervient. Mais la fidélité, c'est pour chaque instant. Il est toujours fidèle. À n'importe quel moment, eh bien, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. À n'importe quel moment, tu prends conscience d'un péché, eh bien, tu peux compter sur sa fidélité. Même si nous ne sommes pas fidèles, il demeure fidèle. Ça nous rassure énormément. La fidélité de Dieu. Et puis, bon, c'est peut-être aussi un trait qui est très rare de nos jours, parmi les hommes, hein, la fidélité. Hein, si on vous demande de penser à la fidélité, un symbole, peut-être qu'on va penser au chien plutôt que de penser à un être humain. C'est malheureusement, mais c'est vrai. Même ces gens qui se promettent l'un à l'autre pour la vie, ils ont du mal à être fidèles. C'est tellement rare de nos jours. Mais le Seigneur recherche la fidélité. En fait, c'était 1 Corinthiens 4 qui dit ce que Dieu recherche, 1 Corinthiens 4, 2. Et c'est nous, en Philippiens 2, il nous dit, c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Hein, il m'aide, il me donne la capacité, mais il veut que je sois fidèle. Ce n'est pas une question de faire quelque chose de grand, c'est une question d'être fidèle dans ce qu'il m'a confié. Et c'est très important. Après, c'est lui qui nous offre des opportunités. Et ces opportunités, c'est à nous de les faire valoir, parce que c'est des opportunités pour lui montrer notre fidélité. Notre service, c'est une manière de lui dire combien nous l'aimons. Hein, c'est facile de dire « Seigneur, Seigneur », mais si je ne fais jamais rien, hein, sinon, beaucoup de chrétiens tombent dans le genre de piège des enfants qui disent jamais merci à maman. Mais après, pour la fête des mères, à l'école, on leur fait faire des cartes où ils marquent « je t'aime », puis ceci, cela. Et puis après, c'est bon, maman, hein, ça te suffit pour l'année. Hein. Et parfois, on fait ça avec le Seigneur. Hein. Le dimanche matin, on lui dit « merci, merci », parce que bon, celui qui préside le culte, il nous a dirigé dans ce sens. Et après, on ne lui dit plus rien. Et non, non, il dit « est-ce que tu es fidèle en disant merci ? Est-ce que tu es fidèle en priant ? Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses ? Oh Seigneur, oh, si tu me donnais la possibilité, j'aimerais être un grand prédicateur, j'aimerais être... » Et il dit, sois fidèle dans déjà ce que tu sais faire, puis on verra. Hein, c'est ça avec le Seigneur. Seigneur, si j'avais 1 million, oh, je donnais 500 000 pour toi. Il dit, et les 10 euros, qu'est-ce que tu fais avec ? Oh ben, c'est rien, ça. Ah oui, mais c'est pas... Non. Est-ce que tu es fidèle avec ce que tu as ? Hein, c'est ce que le Seigneur cherche. Hein. Et puis, bien sûr, donc, je viens à cet aspect suivant, c'est la fidélité. Eh bien, ce n'est pas seulement des mots, il y a des actions. Hein. Alors, vous remarquez dans ce passage que dès que ces hommes, les deux premiers en tous les cas, celui qui a reçu les 5 talents et celui qui a reçu les 2 talents, eh bien, il nous dit que aussitôt, il s'en alla et les fit valoir. Aussitôt. Et la fidélité s'exprime par des actes. Ce n'est pas des promesses, c'est des actes. Ne me parle pas de ta fidélité, sois fidèle. Hein? Et celui qui est fidèle, il n'a pas besoin d'en parler. C'est comme le gars qui dit, vous savez, je suis intelligent. Hein? Je vous le dis. Il dit, écoute, si tu étais intelligent, tu n'as pas besoin de me dire, je le remarquerai moi-même. Hein, on n'a pas besoin d'annoncer à Dieu, il voit tout ça. Sinon, on prie comme les pharisiens, il est obligé d'informer Dieu sur toutes les bonnes choses qu'il fait. Il prend Dieu pour qui ? De devoir lui raconter tout ce qu'il fait. Mais il sait ce que tu fais. Mais parle de ce qu'il est pour toi. Et ce que tu veux être devant lui. C'est à cela qu'il prend plaisir. les deux premiers serviteurs, ben, dès qu'ils avaient reçu, que ce soit 5 talents, que ce soit 2 talents, ils n'ont pas été dire « Mais Seigneur, pourquoi lui 5 et moi 2 ?» Hein, ça, c'est comportement enfant, n'est-ce pas? Parfois, on a des adultes qui se comportent comme enfants. Pourquoi lui et puis pas moi? Pourquoi lui, il a ce don-là et moi, je n'ai pas de don? Il donne à qui il veut. Et peut-être qu'il y a une raison pourquoi il ne t'a pas donné. Et puis, s'il ne t'a pas donné, ben, il n'exige rien. Et il n'exige pas de toi ce que l'autre doit faire. La question, c'est est-ce que tu vas et tu sers? Et peut-être qu'ils auraient pu deviner que le maître partait pour longtemps. Ils ont dit, bon, on a le temps. Hein. Non, eux, ils ont été tout de suite. Ils ont fait valoir. Comme ça, ils sont prêts quand il arrive. Oui. Ce service que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas pour compléter notre salut. Ce n'est pas pour garantir notre salut, ça n'ajoute rien. Il nous dit, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Quand c'est un don, il n'y a rien à ajouter. La vie éternelle, celui qui croit, eh bien, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don, on n'ajoute rien. Mais ensuite, le service, c'est une manière de dire à Dieu ce qu'il représente pour nous. Combien nous sommes reconnaissants. Et lui donner un service qui lui plaise. Vous savez, il y a une expression en anglais qui parle de gratter là où ça ne démange pas. C'est-à-dire, moi, le dos me gratte, et puis toi, tu me frottes ici. Non, laisse tomber, ça m'irrite, ça. Gratte-moi où ça démange. C'est-à-dire, va où. Mais vous savez, des fois, avec Dieu, eh bien, Dieu nous demande de faire quelque chose. Bon, écoute, moi, je vais faire ça pour toi. Il dit, je ne t'ai pas demandé cela. C'est ça que je veux de toi. Hein? La question, c'est de lui donner ce qu'il veut, ce qu'il m'a demandé de faire, pas substitué par autre chose. Et ces hommes, ils ont pris, ils savaient que le maître voulait qu'ils les fassent valoir, ils les ont fait valoir. Et puis après, ce qu'ils ont pu gagner, ils l'ont mis de côté, ils l'ont gardé pour lui. Ils n'ont pas essayé de faire autre chose. Mais l'autre serviteur, le troisième, que le Seigneur appelait paresseux, eh bien lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu 1 talent. Et certainement que si le maître lui a donné 1 talent seulement, c'est parce qu'il n'était pas capable d'avoir plus. Hein? Peut-être, à savoir ce qu'il a pu penser dans sa tête, il a dit, oh, les autres 5, et puis l'autre 2, et moi 1 seulement. C'est pas la peine. Vous savez, il y a des chrétiens qui réagissent de cette manière aussi, et dans l'Église aussi. Oui, pourquoi lui, lui il est ancien, lui il est diacre, et moi ben, je fais le ménage. Ah, ça va pas. Si c'est ce que le Seigneur t'a donné, fais-le de tout ton cœur, tu en feras autant que lui. Tu recevras la même récompense, recevras la même parole, bon et fidèle serviteur. C'est ce que tu fais, la fidélité dans l'opportunité, et ce n'est pas ce que tu peux accomplir. Dans la vie, bien sûr, je comprends. Dans la vie, celui qui rapporte 10 millions, c'est beaucoup mieux que celui qui rapporte que 10 000. Ça, c'est dans le monde. Mais devant Dieu, c'est fidélité dans l'œuvre qu'il t'a confiée. Dans la vie, dans la société, il y a des emplois, on le dit, humble emploi, je ne trouve pas l'expression exacte, il y a des tâches qui sont appréciées, d'autres qui sont moins appréciées. dans la vie, c'est vrai. Hein. Bon, il y en a qui ont des fois des emplois qu'ils n'aiment pas trop dire ce qu'ils font. Mais devant Dieu, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Eh bien, moi, je m'occupe des enfants. Très bien, est-ce que tu le fais de tout ton cœur? Tu le fais avec zèle? Est-ce que tu le fais pour le Seigneur? Et tu essayes de tourner le regard et la pensée des enfants vers le Seigneur? Oui. Alors là, tu fais plus que le prédicateur qui, lui, fait ça de manière professionnelle. Lui, c'est une perte de temps. Il ennuie les gens. C'est pour qui est-ce que tu le fais? Et qu'est-ce que tu veux stimuler dans ces enfants? Moi, je fais les visites des personnes handicapées, malades, les gens qui ne peuvent pas venir à l'église. Je vais les encourager. Personne ne sait, personne ne voit. Ces gens, ils ne sont jamais à l'église. Ça ajoute rien à l'église. Et puis, en plus, ils sont pauvres. Ils n'ont pas d'argent à mettre dans la collecte. Mais je vais les voir régulièrement. Et tu les fais pour le Seigneur. Eh bien, écoute, tu as un ministère extraordinaire. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée des hommes, mais c'est la pensée de Dieu. Hein? Mais cet homme-là, il reçoit un talent. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, faut pas que je le perde. Alors, je le cache. Il le cache dans la terre, un endroit sûr. Et puis, il dit, je vais le déterrer quand il reviendra. Je lui rendrai ce que c'est à lui. Et puis après, il s'en va faire ce qu'il a envie de faire. Donc, il passe tout son temps en attendant que le maître revienne. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Il dit, moi, là, le talent, là, je l'ai bien caché. Personne ne va le trouver. Je suis tranquille, maintenant je vis ma vie. Et c'est pour ça que le Seigneur dit méchant et paresseux. Et je cherche des applications. Surtout, ce n'est pas une question de savoir qu'est-ce qui arrivera aux mauvais serviteurs, parce que j'espère ça ne nous intéresse même pas. C'est ce qui nous intéresse, c'est comment être un bon serviteur. Alors sachons aussi ce qui déplaît au Seigneur. Nous pourrions prendre cette parabole et puis dire, cette parabole, elle parle des enfants d'Israël à qui Dieu a confié le message, son message pour le monde, et puis ils l'ont gardé pour eux, ils n'ont pas prêché au monde entier, ils ont gardé ça pour eux, au point de croire que c'était uniquement pour eux et que c'était même pas pour les autres. Et donc, on pourrait dire, ils ont été infidèles. On peut penser ça, c'est toujours plus facile de voir les fautes des autres. Hein. On voit toujours mieux la paille qui est dans l'œil de mon prochain et difficilement la poutre qui est dans mon œil. Nous pourrions penser, dire, mais ça, c'est les communautés dites chrétiennes ou des individus qui se disent chrétiens, et puis, mais finalement, ils ne font rien, ils ne font pas d'évangélisation, ils ne parlent à personne, ils sont contents entre eux, ils se réunissent dans leur petite réunion, ils ont leur petit culte, et puis ils ne font rien aux autres. Donc, ce qu'ils ont reçu, ils le gardent pour eux, ils le cachent, et puis ils attendent le retour du Seigneur, et puis ils vont lui rendre ce qu'il leur a donné. Vous pourrez penser à ça, et c'est pas complètement faux, hein, ça intervient. Mais j'espère que ce n'est pas notre problème. Hein. Donc, ce n'est pas une application qui nous touche. Hein. On n'est pas là pour voir les autres. On veut voir qu'est-ce qui peut m'aider moi-même. Et nous pourrions dire aussi que il s'agit des communautés qui ont des moyens, ils ont des beaux bâtiments, ils ont de l'argent, ils ont des gens, des revenus, ils ont tout ça. Et puis, tout ce qu'ils font, c'est améliorer leurs bâtiments. Ils ont des sièges de plus en plus confortables. Et puis, ils ont leur petit monde. Et puis, surtout quand vous allez en France, il n'y en a pas tellement, mais vous allez aux États-Unis, alors là, les bâtiments, ils ont des gymnases, ils ont toutes sortes de choses qui sont associées à l'église. Et finalement, toute leur vie est là. Il y a l'école, il y a le gymnase, il y a les activités, il y a exercice, il y a tout là. On peut même venir voir regarder les matchs de foot ensemble, entre chrétiens. Ah, ça c'est la communion, n'est-ce pas? Et on pourrait les critiquer, dire, ouais, mais bon, ils font tout ça pour eux, mais et les autres? Et mon but, c'est pas de critiquer les autres. Si eux, ils répondent pour eux-mêmes, c'est moi. Hein? Quelle est ma situation? Supposons qu'on me confie, me dit, tiens, tu as un véhicule, tu ne pourrais pas passer prendre quelqu'un? Mais chaque fois, on dit, ouais, mais bon, après, je dois me lever plus tôt, ça fait un détour, ceci, cela. On demande une fois, deux fois, après, on ne demande plus. Hein. Tu as l'opportunité, tu l'as prise, tu l'as mise dans la terre, et puis tu la gardes. Après, on ne demande plus. C'est pas utile. Ou bien, quelqu'un est de commun et dit, écoute, tu ne voudrais pas faire monitrice ou animer les jeunes? Oui, non, mais moi, mon samedi, j'aime bien me reposer. Il faudrait travailler le samedi, préparer tout ça. Et puis après, les dimanches après-midi, je suis avec les jeunes. Après, j'ai plus mon dimanche pour travailler dans mon jardin. On demande cette personne une fois, deux fois. Après, on ne lui demande plus. Hein. C'est terminé. Pourquoi? Il préfère garder ce qu'il a, la capacité qu'on a vue chez lui. Et on lui a confié quelque chose. Et il n'a rien fait avec. Et bien, on le laisse. Et puis, il rendra des comptes au maître. La question, c'est quelle capacité le Seigneur m'a donnée? Ce n'est pas toujours le fait d'être riche. Peut-être qu'il m'a donné la capacité d'avoir, de disposer un peu de temps. Peut-être qu'il m'a donné la capacité de pouvoir parler avec les gens. Peut-être qu'il m'a donné des capacités de pouvoir recevoir. Hein? Ben oui, j'ai une chambre supplémentaire à la maison, là. Ben, je peux recevoir les gens de passage, je peux les recevoir. Ah ben, c'est bien. Ah non, mais bon, après, il faut que je fasse le ménage de toute la maison. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, ça me fait trop de travail, tout ça. Garde ta chambre. Vous savez, c'est qu'est-ce que le Seigneur me demande de mettre à son service ce que j'ai. Et puis, je dis non, c'est trop de travail. Mais bon, ben, garde-le. Vous savez, le Seigneur, il va pas, il frappe pas, heureusement. Il frappe pas ceux qui ne servent pas, il les laisse. Jusqu'au moment où il faudra rendre des comptes. On sait qu'il y a quelqu'un qui est malade, on sait oui, mais j'ai pas le temps de passer, je suis fatigué, je vais faire la sieste, tout ça. Ah oui, mais après, quand toi tu es à l'hôpital, tu es content, quelqu'un passe te voir. Vous savez, même je suis là et. Le Seigneur m'a donné la capacité de savoir avoir un beau sourire et puis de pouvoir. Mais j'accueille personne. J'arrive à l'église, les gens arrivent, je ne les accueille pas. Je fais comme les gens dans le métro parisien, hein, que je connais bien. Et le Seigneur n'a pas besoin de toi. Reste, tu gardes ta chaise et puis tu gardes ta place et puis voilà. Et c'est les autres qui feront le travail. Mais dans une église. Chacun vient avec des capacités. Et le Seigneur dit, si tu es fidèle avec ce que tu as, moi je trouverai d'autres opportunités. Et le Seigneur permettra aux responsables de l'Église aussi de trouver des capacités. Et puis dire, je me souviens, quand on lui avait confié juste une sortie des jeunes, il est très bien fait. Bon, je pense que peut-être qu'il pourrait avoir une classe, ou peut-être qu'il pourrait animer quelque chose. On confie des choses basées sur une performance, une fidélité. Après, il y a des gens qui disent, ouais, mais moi je suis timide. La timidité n'est pas une qualité spirituelle, n'est-ce pas? La timidité, c'est... c'est de l'orgueil. Parce que je suis timide parce que je crains l'échec. Et je veux pas d'échec. Je veux pas. Et donc, comme je veux pas d'échec, je fais rien. Et je dis que je suis timide. Je crois que comme dans une famille, on est là pour nous soutenir, pour que personne n'échoue dans ce qu'il fait, de ce qu'on lui confie. On l'a fait selon ses capacités. On est là pour le soutenir. On est là pour l'encourager. S'il y a, on l'aide, on le soutient. Et c'est l'esprit qu'on devrait avoir dans l'Église. On n'est pas là pour comment il va faire, on va le voir, on va le laisser faire. Non, non, on va l'aider à réussir dans ce que le Seigneur lui donne. Et la joie sera pour nous. Parce que, vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit à ces hommes ? Il dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Le maître est dans la joie. Et parce que tu as été fidèle, tu rentres dans sa joie. Je vous laisse méditer ça cette semaine, ce que ça veut dire, mais rentrer dans la joie de quelqu'un. Hein? Mais le Seigneur nous... Mais c'est par la fidélité dans notre service pour lui qu'on peut rentrer dans sa joie. C'est pas en ajoutant des instruments à l'église, c'est pas en augmentant le volume et en disant voilà, on va augmenter la joie. Ça, c'est la joie, le monde arrive à créer ça. Hein, ils le font bien mieux que les chrétiens, parce qu'ils ont le matériel qu'il faut. Ils ont le talent qu'il faut. Mais la joie de notre maître, ils ne la connaissent pas du tout. Mais par notre service, notre fidélité, le Seigneur dit, entre dans ma joie. Quand le Seigneur touche une âme perdue et elle se tourne vers Dieu et reçoit la vie nouvelle, les anges rentrent dans sa joie. Il dit, les anges du ciel se réjouissent pour un pécheur qui se repent. Ils rentrent dans la joie du maître. Et nous aussi, nous nous réjouissons. Peut-être que nous avons une mauvaise image de nous-mêmes. On dit, ouais, non, mais moi, je ne sais rien faire, je ne peux rien faire, tout ce que je touche se casse. On parle des gens qui ont des doigts en or, hein, tout ce qui touche, ça réussit. Mais il y en a d'autres qui ont ce sentiment que... Et j'ai déjà entendu des parents dire, non, touche pas, tu vas le casser. Mais bon, le pauvre, il va grandir, ça va donner quelle sorte d'adulte, lui. Après, il fera rien. Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps en train de lui dire, tu es nul, tu sais rien faire, tu ne feras rien, touche pas, surtout, n'existe pas. Et alors, il y a ces gens qui sont cette image de la perfection, des perfectionnistes au point où rien n'est bien fait parce que c'est jamais parfait. Et c'est eux qui en souffrent les premiers. Et puis après, il y a aussi ceux qui ont été pendant leur enfance tout le temps rabaissés. Et j'ai de l'expérience avec ces gens-là aussi. Je trouve quelqu'un qui dit, mais non, mais moi je ne sais rien faire, je suis content rien que d'être là et tout ça. Et je demande, je dis, est-ce que dans ton enfance, tes parents t'ont rabaissé ? Oui. Eh bien, ils en souffrent toute leur vie. Donc, je le dis, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais ne rabaissons pas nos enfants parce qu'on les détruit pour la vie. Il ne faut pas dire d'un côté je les aime et d'un autre côté je les détruis. Je dis non, tu ne sais rien faire, dégage, pousse-toi. Non, non, je l'aide, je le fais réussir. Comme ça, il développe de l'assurance. Et cette assurance, eh bien, après, il la mettra au service de Dieu. Il pourra faire de grandes choses. À force de dire à quelqu'un qu'il ne sait rien faire, et puis surtout si on le fait dans l'église, et puis on dit à des membres, vous savez rien faire, écoutez, louez le Seigneur comme ça dans votre chaise, ça sera très bien. Eh bien, ils peuvent finir par le croire. Et après, on les a neutralisés, il n'est d'aucune utilité pour Dieu, et donc il ne rentre pas dans la joie du Seigneur qu'on peut avoir déjà sur cette terre. Et puis après... Si, vous rappelez la discussion que le Seigneur a eue, l'Éternel a eue avec Moïse. Il dit, Moïse, tu vas descendre en Égypte et tu vas parler à Pharaon. Oh non, 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 je ne sais pas parler. Et vous savez comment Dieu a répondu ? Il a dit, c'est vrai que tu ne sais pas parler, tu bégayes, ouais, j'ai remarqué là, c'est vrai, j'aurais pas dû te demander. C'est pas comme ça qu'il a répondu. Il a dit, c'est qui a créé la bouche ? Si je te demande, c'est que je crois que tu es capable. Oui, non, non, mais, non, mais bon, on voit quelqu'un d'autre. Bon, finalement, le Seigneur a envoyé quelqu'un d'autre. Hein. C'est Aaron qui a parlé. Bon. Je suis en train... Quand je dis au Seigneur, mais non, pas moi, Seigneur, à quelqu'un d'autre, je suis en train de dire, écoute, tu n'es pas assez intelligent pour savoir ce que je sais faire et je vais t'expliquer. C'est un peu grave. S'il me parle... c'est qu'il me trouve capable. Quand il envoie, il rend capable. C'est lui qui donne et le vouloir et le faire. Et ce qui arrive ici, après, lorsque nous voyons le dernier serviteur, là, vous savez, quelque part, je ne sais pas quelle était sa pensée, certainement, si le maître lui a donné un talent, c'est qu'il était capable de faire valoir un talent et de gagner un autre. Donc, s'il ne l'a pas fait, après, il se dit, wow, qu'est-ce que je vais raconter après, maintenant, et quand il va revenir, il va me demander qu'est-ce que je vais lui raconter. Alors, après, cet homme, qu'est-ce qu'il vit ? Eh bien, il y a des jugements qui ressortent, qui commencent. Parce qu'il n'est pas fidèle, parce qu'il n'accomplit rien, après, il commence à dire, il met la faute sur qui ? Au lieu de la prendre sur lui-même et dire, tu es paresseux, il dit, oui, non, mais je savais que tu es sévère et que tu exiges de là où tu n'as rien fait, et puis tu es dur, et puis il y a de l'amertume qui s'est développée pendant ce temps. Et on commence à critiquer Dieu, et on commence à douter de Dieu, et on commence à faire des jugements contre Dieu pour se justifier. Alors que quand Dieu te l'a donné, tu étais certainement capable de le faire, et tu ne l'as pas fait. C'est pour ça que Dieu est sévère avec lui. Il dit, oui, il est quand même dur avec Dieu. Ah mais oui, mais cet homme est dur avec Dieu. Et celui qui ne fait rien, après il commence à s'inventer des excuses. Oui, mais bon, moi, par rapport à l'autre, je ne suis pas, j'ai pas ce, l'autre il fait mieux. Et puis on commence à s'inventer des excuses et à se dire des tas de choses que Dieu ne m'a jamais dit, qu'il n'a pas pensé. Et après, j'en parle au Seigneur, je dis, tu sais, Seigneur, moi, si je n'ai pas fait, tu sais pourquoi, hein, parce que moi, tu ne m'as pas donné ni le talent pour parler, ni le talent pour jouer d'instrument, tu ne m'as pas donné la capacité de ci, cela. Et puis, on commence à le critiquer, le juger lui-même. Et c'est grave. Et Dieu l'appelle méchant. Il dit, tu as pensé ça ? Eh bien, voilà, tu seras jugé du jugement dont tu as jugé les autres. Tu as jugé Dieu, tu seras jugé du jugement dont tu as jugé Dieu. Et la fin était très sévère, les conséquences étaient très sévères pour cet homme. Donc la question c'est, est-ce que je peux faire confiance à Dieu ? Est-ce que je peux compter sur lui de m'accompagner dans le service ? Est-ce que il ne demande pas de faire des grandes choses ? Il dit, commence par les petites choses. L'être humain, aussi pécheur et égoïste et dur qu'il est, on a quand même dans les écoles, on sait respecter les enfants, on leur donne des tâches qui sont alors selon leurs capacités. Aussi méchant que la pensée de l'homme elle est, on sait donner à chacun selon ses capacités. Pourquoi est-ce que Dieu ne le ferait pas ? Est-ce qu'il est pire que nous ? Pire que le pécheur ? Ou est-ce qu'il est meilleur ? Nous devons faire très attention dans notre pensée et dans notre réflexion. Et puis, et le problème est là quand je deviens le centre de ma vie et j'évalue tout le reste en fonction de moi. Alors que c'est lui qui doit être le centre. On doit être christocentré, pas égocentré. Et donc, l'Église n'est que l'expression de Dieu. C'est l'œuvre de l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui développe les désirs et je sers avec ce que j'ai dit. Bon, alors la question c'est, bon Steve, c'est bien, mais pratiquement, comment je fais ? Voilà, d'accord, j'ai eu des problèmes, je vois, je veux bien faire à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais ? Ben, commence à faire ce que tu peux faire. Ce que tu sais faire, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Vous savez, l'expression que j'emploie toujours, vous allez l'entendre pour ceux qui sont ici, vous allez l'entendre souvent, mais vous savez, il est plus facile de conduire une voiture qui roule qu'une voiture qui est stationnaire. Peu importe si elle commence à rouler dans le mauvais sens, on peut toujours la conduire. Mais si elle ne bouge pas, on ne peut rien faire. On peut avoir un as du volant et ça ne change rien. C'est la question de comment ça roule et le Seigneur conduira, laisse-le conduire. Dis Seigneur, voilà, je mets la voiture en marche, je commence à rouler et toi conduis-moi par ton esprit, par ta parole. Et ce que tu trouves à faire, les petites choses, une petite parole ici, Je ne te demande pas une prédication, je te demande juste une parole d'encouragement. Commence à donner des paroles. Une parole de remerciement. Et le Seigneur, qui sait? Moi, je me souviens de papa qui était prédicateur. Quand il était enfant, s'il voyait le voisin venir sur le même trottoir, il traversait le trottoir pour ne pas être obligé de dire bonjour. Et finalement, il était un prédicateur qu'on entendait sans amplificateur. Hein, on entendait bien. Oui, mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé avec... On commence à se dire, je vais dire bonjour à mon voisin. Je vais dire deux mots. Je n'ai pas besoin de faire une prédication. Je commence à dire, j'aime le Seigneur. Dites-le devant les gens. Il dit, ah merci Seigneur. Mais en passant comme ça. Les musulmans disent bien Inch'Allah, et puis ils disent bien Seigneur, et puis on ne dit rien. Pourquoi est-ce que le chrétien ne pourrait pas dire merci Seigneur? Ah, Dieu pourvu. Tant pis si l'autre croit ou ne croit pas, c'est son problème. Mais il a besoin d'entendre qu'il y a des gens qui le croient. Je vais terminer avec ça, mais il y a une jeune dame à l'église de Saint-Denis. Comment est-ce qu'elle a su, elle a pu trouver l'église? C'est parce qu'elle a entendu une chrétienne chez quelqu'un d'autre qui a dit « Merci Seigneur » comme ça en passant. Elle dit « Ah, ça doit être une chrétienne ». Elle cherchait, elle ne savait pas où trouver quelqu'un. Elle s'approche d'elle et dit « Est-ce que tu es chrétienne ?» Elle dit « Oui, oui, tu vas à l'église où ?» Et puis le lendemain, le dimanche suivant, ils étaient à l'église. Et depuis, pour une femme algérienne, maintenant elle est chrétienne, elle a une famille chrétienne, elle est mariée à un chrétien, ils ont des enfants et ils ont toutes, ils servent le Seigneur. Mais ça a commencé avec quelqu'un qui a dit merci Seigneur. Vous savez, fidèles dans les petites choses, mais elles sont là pour Dieu. Dieu est celui qui se spécialise en prenant les petites choses pour en faire de grandes. Et c'est là où il est glorifié. Si j'avais des grands talents et des grandes capacités, je prendrais la gloire. Mais quand je n'ai pas grand-chose et Dieu fait des grandes choses, alors je suis obligé de lui donner la gloire. Deux catégories de serviteurs. Qu'est-ce que je veux être? Je reste avec ce que je sais, je suis content. Ou je mets tout ça au service de Dieu? Bien sûr, si je ne suis pas enfant de Dieu, je ne peux pas être serviteur de Dieu. D'abord, on reçoit la vie, hein, comme il nous a été dit plus tôt. Jésus l'offre, on la reçoit. Celui qui croit que Christ est mort sur la croix, qu'il a été ressuscité, eh bien, il a la vie éternelle. Et à partir de là, il commence à la vivre, à l'exprimer par ce service, par ses actes. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ta parole, pour tes pensées. Nous trouvons de la vie, nous sommes libérés avec tes pensées. Nous souffrons de la manière dont le monde fonctionne, mais nous voulons fonctionner à ta manière, même dans ce monde. Et c'est là notre joie. Père, nous ne voulons pas des perfusions de joie, nous voulons entrer dans ta joie. Et aide-nous, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.